Les émissions des quartiers.
Pour un outil dédié aux habitants.
On m'a formé comme journaliste.
La radio part à votre rencontre.
À Ivry, il se passe des choses qui sont positives. Et juste, c'est juste pour en parler. Une radio, je pense que ça doit servir à ça.
Un espace d'expression complètement libre où chacun peut intervenir.
C'est aussi des rencontres, des échanges avec les jeunes, les moins jeunes.
Il faut parler ensemble, quoi. Faut y aller, faut dire toutes ces choses. C'est peut-être un peu ridicule, mais c'est ce qui fait la vie ensemble.
Les émissions des quartiers
sur Principe Actif.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau volet des émissions des quartiers. Aujourd'hui, nous sommes à l'EHPAD de Louviers, aux rives Saint-Aurin. Nous y reviendrons tout au long de cette émission pour vous expliquer un petit peu ce qu'est un EHPAD. En tout cas, un EHPAD, c'est un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Durant toute cette heure, nous passerons, nous aurons un tas d'invités d'ailleurs avec lesquels nous évoquerons le travail préparé avec les résidents. Au micro avec moi, François. Bonjour François.
Bonjour.
Alors François, nous nous retrouvons tous les deux autour des micros, pas par hasard. Nous sommes sur cette première émission qui va être la toute première d'un cycle que nous allons faire sur les pattes de Louviers.
Oui, et ça s'inscrit dans un dispositif qui s'appelle Culture Santé et qui est un accord entre le ministère de la Santé et le ministère de la Culture pour permettre à des artistes de créer des projets artistiques dans les établissements publics. Un EHPAD, c'est avant tout aussi un établissement public. Et donc, c'est soit dans les hôpitaux, soit dans les IME aussi, pour les jeunes handicapés. Ou alors, comme ici, dans ce qu'on appelle plus communément une maison de retraite. Et ce dispositif nous permet aux artistes de créer des projets de création avec, ici en tout cas, nos résidents qui sont avec nous et auxquels on peut dire bonjour. Bonjour à tous et à toutes.
Bonjour. Ben voilà, bonjour à toutes et à tous. Et justement, ce projet culturel, eh ben, ça va être Radio Ricochet, un projet que vous retrouverez régulièrement sur nos ondes jusqu'à la fin de cette année scolaire. Pour ainsi dire, il y aura des diffusions et des rediffusions. Eh bien, je vous propose tout de suite qu'on écoute la voix des résidents.
Quand je suis rentré d'ici, j'ai trouvé la maison impeccable. Bon, il ne m'avait pas dit dans quelle chambre qu'on allait mettre. Puis il y a une dame qui vient, elle me dit comme ça, mais attendez un petit peu, on va vous faire voir votre chambre. Je suis montée là-haut, ils m'ont montré la chambre, j'étais très contente. On a mangé, tout ça, on a discuté. Puis, quand j'ai voulu sortir, Madame Guerre, elle me dit, mais dites donc, elle dit, vous ne pouvez pas sortir puisque vous avez qu'un œil et vous ne voyez pas beaucoup. Au château de Marton, vous sortez. Mais j'ai dit, oui, mais pour l'instant, je ne sors pas, d'accord. Mais quand j'aurai des nouvelles lunettes, je sortirai. Oh, ben, elle me dit, de si là, je serai partie.
Et vous les avez
eues,
vos nouvelles lunettes?
Ben oui, c'est cela. Mais maintenant, je ne vois pas sortir. Parce que la semaine dernière, j'ai été dans la ville, au restaurant, manger toute seule. Et j'ai fait mes commissions toute seule.
Voilà, c'était Daniel, extrait de nombreux échanges que nous avons sur ces temps de préparation, car nous venons quasiment toutes les semaines, voire même deux fois par semaine, sur cet établissement Rive Saint-Aurin, EHPAD de Louviers. Nous travaillons d'ailleurs également avec les Arches, EHPAD de Delbeuf, voilà, où certains résidents sont également avec nous. Nous travaillons environ avec une quinzaine de résidents pour ne rien cacher. Cette émission, aujourd'hui, c'est la toute première, celle qui va planter le décor, celle qui va nous amener à comprendre un petit peu où nous sommes et ce qu'il s'y passe. Durant cette émission, nous aurons Madame Tuvache, directrice des EHPAD de Louviers et d'Elbeuf, à nos micros. Nous aurons les animatrices de ces EHPAD également qui font la vie et une partie des ateliers que nous réalisons. Il y aura également l'interview de Denis Lucas
Denis Lucas, c'est le responsable du dispositif Culture Santé en Haute-Normandie.
Voilà, exactement. Voilà. Le tout sera entrecoupé d'enregistrements que nous avons réalisés durant ces temps de préparation de la parole de résident. Et puis, juste après cette nouvelle parole de résident, nous retrouverons le docteur Simon à nos micros.
Je suis resté 4 mois dans une maison de repos au Vallon. Et au bout de 3 mois, on a commencé à parler de maison de retraite. On m'avait donné différentes adresses. J'étais passé une visite à Louviers. C'était un docteur, je sais plus, qui a fait l'entrée. C'était pas Simon à l'époque. Hein. Chevalier, je crois. Ouais, il y a 4 ans, attends, c'est vieux. Hein, au bout de 2 mois, on m'a dit, ah, il y a une place. Je débarque aux Arches, je suis arrivé. Salle de télé, tous les grands-pères dormaient là-dedans. Oh, j'ai dit, ça craint, là. La madame hier qui vient me voir. Ouais, j'ai dit, madame hier, je viens, mais vous avez un code pour sortir, me promener, là. C'est la première chose que j'ai demandé, c'est le code. Bon, mais je connaissais quand même Elbop, j'avais des copains à Elbop, donc c'était bon.
Et vous l'a donné, le
code? Ah bah oui, c'est la première chose qu'elle m'a faite. Hein. Ouais, mais bon, je suis quand même assez occupé dans la maison de retraite, ça va. Je fais des courses. Je fais des courses de pratiquement, je sais pas combien de personnes. Je suis occupé.
Voilà, Jean-Claude qui nous racontait son arrivée à l'EHPAD de Delbeuf, les Arches. Nous avons maintenant le docteur Simon avec nous en plateau. Docteur Simon, vous êtes médecin-chef du pôle gériatrie et de soins de suite et de réadaptation. Bonjour à vous.
Bonjour à tous.
Alors, avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos fonctions et de cette appellation médecin-chef pôle gériatrie, soins de suite et réadaptation?
Alors, je suis pas médecin-chef, je suis chef de pôle. Alors, les hôpitaux publics sont découpés en pôles d'activité, activités qui sont normalement cohérentes entre elles. Donc, sur l'hôpital d'Elbeuf-Louviers, il y a un pôle de médecine de spécialité, un pôle de chirurgie, et il y a un pôle de gériatrie, soins de suite, donc qui comporte toutes les filières, tous les dispositifs qui accompagnent le patient âgé dans son parcours. Il y a à la fois les services d'hospitalisation, de court séjour, de soins de suite, gériatrique. Il y a les services de consultation, par exemple la consultation mémoire. Il y a le service de soins à domicile, d'infirmières à domicile. Il y a une équipe mobile d'évaluation à domicile qui va faire des évaluations gériatriques à domicile. Et puis, il y a toutes les maisons de retraite, toutes les EHPAD. Hein, du vilain mot d'EHPAD, mais on disait maison de retraite, c'était plus joli auparavant. Et donc, c'est assez cohérent parce qu'on suit le patient sur tout son parcours de la maison, sur les différentes étapes, sur les étapes d'hospitalisation, les étapes de consultation, sur... Après, une autre étape qui est la maison de retraite. Voilà, c'est cette cohérence dans le pôle qui est intéressante et qui m'a intéressé dans ces fonctions qui sont un peu aussi administratives, où il y a une dimension médico-économique. C'est un peu partout comme ça. Voilà.
Et votre rôle à vous, voilà, c'est la coordination,
c'est la coordination
de l'ensemble de
tous ces dispositifs. J'essaye encore de faire un peu de médecine, hein, parce que ça, c'est quand même la base de mon métier, hein, et de voir des gens en consultation, en hospitalisation, effectivement.
Quel a été votre parcours? Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser plus particulièrement à la gériatrie? J'imagine qu'on n'y vient pas par hasard.
Non, alors, je ne vais pas dire que tout petit, dans le berceau, je voulais faire de la gériatrie. Hein, faut pas non plus raconter des histoires. Mais quand on est médecin, on est soit on a une activité individuelle, hein, soit on a envie de travailler en équipe. Hein, et l'hôpital, et encore plus la gériatrie, nécessite un travail d'équipe. À la fois avec entre médecins, mais les infirmières, les aides-soignantes, les kinés, les assistantes sociales, tous les métiers autour de la gériatrie sont vraiment importants. Et moi, j'aime bien ce travail-là. Je me verrais pas travailler tout seul dans mon coin. Et puis, la gériatrie, c'est aussi, on s'occupe du patient, mais on s'occupe aussi de son environnement, de son conjoint, de ses enfants. C'est vraiment global et multifonction et multipartenaire. Et ça, c'est intéressant.
Justement, la prise en charge de nos aînés, j'imagine, a évolué sur les années. Qu'est-ce qui change entre la prise en charge de nos anciens aujourd'hui et il y a 20 ou 30 ans? Comment évolue cette prise en charge?
Le problème, c'est que nos anciens, ils sont de plus en plus anciens. Entre guillemets, l'espérance de vie augmente d'année en année. Et la difficulté, c'est que, bon, on meurt plus tard, mais des fois, on meurt dans des conditions médicales et de dépendance altérées. Et donc, il faut accompagner cette avancée en âge et il faut accompagner cette dépendance vis-à-vis de l'environnement qui est de plus en plus marquée. On peut prendre l'exemple, par exemple, de la maladie d'Alzheimer. Hein. Effectivement, il y a 50 ans, elle paraissait moins présente, mais parce que on mourait plus tôt. Et maintenant, on vieillit et les personnes ont de plus en plus de difficultés cognitives et donc ça accentue leur dépendance. Ce qui fait que l'idée, c'est de maintenir les patients, les personnes à la maison le plus longtemps possible, mais dans les meilleures conditions possibles.
Alors on voit bien comment médicalement l'intervention peut se faire. Au niveau du bien-être de la personne en elle-même, est-ce qu'il y a eu une évolution dans la prise en compte des patients?
Il y a quand même eu une évolution parce que il faut mettre en place des dispositifs sur les territoires pour accompagner les patients, parce que les familles, elles sont un peu désagrégées. Hein. Les enfants, ils vont à l'autre bout de la France. Les personnes se retrouvent des fois seules ou en couple. Et donc, les territoires, les communes, les conseils généraux ont initié des actions pour accompagner les personnes. Hein, sur l'aspect de vie quotidienne, de transport, de vie sociale, qu'il n'y ait pas de coupure, parce qu'il n'y a plus l'aspect familial maintenant, parce que les enfants, ils sont dispersés.
Quel est votre lien avec les résidents et leurs familles? Vous évoquiez il y a quelques instants la notion de famille par rapport aux patients.
Quand un résident, un futur résident vient à la maison de retraite, il vient accompagné de toute sa famille. Hein. C'est évident qu'il ne faut pas couper. Hein. Ce n'est pas une coupure, c'est une étape. Il est important dans le projet personnalisé en maison de retraite que le patient est bien sûr au centre, la famille accompagne aussi ce projet. Hein, y a pas de, c'est une continuité de ce qui se passe à la maison et il faut tout faire pour que cette continuité perdure.
On évoquait ce lien humain qui est essentiel, j'imagine, dans votre métier. Un des éléments pour pouvoir travailler de concert, c'est le conseil de vie sociale. On a eu l'occasion d'échanger avec les résidents sur ce conseil de vie sociale. Quel est son but et son intérêt à ce conseil de vie sociale?
L'idée du conseil de vie sociale, c'est de rassembler tous les intervenants, à la fois les intervenants soignants, les intervenants administratifs, mais les plus importants, c'est les résidents et leurs familles. Donc c'est un échange, c'est entre l'équipe médicale, paramédicale, administrative, et puis le résident, ses enfants qui veulent, pour essayer d'améliorer la qualité de prise en charge dans la maison de retraite, voir les points qui fâchent, les points qui sont plutôt bien, les projets. C'est une assemblée interactive et de communication entre l'équipe et son résident.
Et cette assemblée a lieu régulièrement ?
Très régulièrement, et rassemble tous les acteurs.
Et les familles sont là ?
Et les familles, il y a un représentant des résidents et un représentant des familles. D'accord. dans ce conseil de la vie sociale.
Ça vous fait remonter parfois des éléments que vous n'appréhendiez appréhendiez pas, même en tant que professionnel ?
Bah, bien sûr, il y a tous les un peu les tracas de la vie quotidienne ou la maison de retraite et surtout la nôtre est une grosse machine et qui a son organisation, sa rigueur et le conseil de la vie sociale peut-être redonne un peu une humanité à la grosse machine. Ça c'est vraiment important.
Il y a combien de résidents ici ?
Alors, sur Louviers, hein, sur les pattes de Louviers, il y a 220 résidents. Ah oui. Et sur les pattes d'Elbeuf, il y a 250 résidents sur plusieurs sites.
Très bien. Eh ben, merci à vous, Dr Simon,
merci de vous être prêté
au jeu de ce question-réponse. Nous partons en musique, et puis avec le titre... Pardon, oui ?
Non, je n'ai rien à dire.
Merci de cette intervention. Nous partons donc, nous, en musique. On l'a fait quand même.
Le beau temps, c'était toute la jeunesse. Jusqu'à 70 ans. Dans la vie, il y a un temps pour tout. Un pour venir... Un pour partir. Le temps, il arrive tout seul. On ne peut pas l'empêcher de passer.
Avec le temps va, les jambes deviennent lourdes.
De ma vie, c'est la pêche avec ma femme.
Si j'avais le temps, je ferais tellement de choses, mais je vis au jour le jour. Le ciel peut me tomber sur la tête, je passe mon temps, c'est déjà pas mal.
Si je peux encore rester un peu, je dis pas non. Pour juger les gens, il faut du temps.
Pas d'oisiveté dans le temps d'aujourd'hui. Être dans la maison de retraite et continuer à protester. À la porte du directeur, lui dire ce qui ne va pas.
La vie, en accord avec ses idées et sa personnalité. Regretter le temps, c'est difficile et ridicule.
Je finis maintenant. Je m'en fous des femmes.
l'a fait quand même extrait du CD, de l'album du projet Ricochet. Projet Ricochet qui a eu lieu sur justement les EHPAD, les maisons de retraite de Louviers et d'Elbeuf avec la compagnie Itinéraire Bis, François, étonnamment.
Voilà, et étonnamment, et c'est suite à ce projet qu'on a réalisé il y a 2 ans avec 15 autres résidents des EHPAD de Louviers et d'Elbeuf que nous avons pensé continuer à travailler ici. Et l'idée d'une émission de radio a germé comme ça, spontanément, en discutant, parce que tous les midis, quand on vient ici, on a la chance de manger dans un petit salon avec tous nos résidents et les animatrices, des fois la directrice. Et là, il y a des échanges très intéressants. Donc moi, je représente la compagnie Itinéraire Bis, qui est une compagnie d'Évreux et qui... on a 2 actions principales, celle de créer des spectacles et l'autre de créer des actions culturelles dans différents lieux, les écoles, les maisons de retraite, etc.
Ce qui fera que nous travaillerons ensemble durant cette année sur les EHPAD de Louviers et d'Elbeuf pour mettre en place un petit peu une extension du projet, à savoir Radio Ricochet.
Oui, alors Radio Ricochet, c'était un atelier d'écriture. Après, avec des musiciens, nous avons mis en musique les textes réalisés par les résidents. Et à partir des playbacks que nous présentions, les résidents se sont entraînés à parler et à chanter sur ces musiques-là.
Nous aurons l'occasion, durant nos nombreuses émissions d'ici, d'écouter d'autres extraits de ce projet Ricochet.
Je l'espère bien.
J'arrivais là, tout le monde avait un grand sourire. On a toujours le sourire ici quand on arrive. Hein.
Oh oui,
ah oui, petite caresse dans le dos et compagnie. Après, on nous montre ta chambre. Ça, c'est moins bien.
Elle est pas bien, votre chambre?
C'est pas assez grande. Pour moi, il me faut de l'espace. Non, enfin, non. Bref, du moment qu'on peut mettre de la musique,
c'est bien.
Que les animatrices puissent danser dans le couloir, ça va.
Oh ben, moi, j'étais un peu dépaysée quand je suis arrivée ici. Puis je m'y suis bien faite. J'ai fait quelques relations avec mes deux face-à-face que je vois pas bien. Mais est-ce doute de qui je veux parler? Je me suis bien installée dans ma position, puis ça va tout seul.
Voilà, c'était Daniel et Hélène lors de nos échanges de la semaine dernière. Vous aurez l'occasion d'écouter, bien entendu, un tas d'enregistrements que nous faisons dans les séances de préparation. Nous sommes toujours à l'EHPAD de Louviers et nous recevons maintenant Jocelyne Tuvache, attachée d'administration, plus clairement directrice des EHPAD de Louviers et d'Elbeuf. Bonjour à vous.
Bonjour.
Ma première question va être, en quoi consiste votre fonction au sein des EHPAD ?
Alors, au niveau des EHPAD, ma principale fonction est d'apporter déjà les financements nécessaires au fonctionnement. Ensuite, je dirais de m'assurer que toute la gestion administrative et réglementaire soit respectée. Et également, je dirais, de permettre aux résidents d'être le mieux accueillis possible et leur vie facilitée au sein de nos EHPAD.
Pour comprendre un peu plus qui vous êtes, quel est votre parcours pour arriver à diriger des EHPAD ? J'imagine qu'on ne fait pas ça par hasard.
Non, tout à fait. Mais rien ne me prédisposait à cette fonction, puisque j'ai commencé ma carrière en travaillant dans les tribunaux. Donc vraiment, j'ai fait une formation juridique. Ensuite, ça ne me convenait pas. Je suis venue au monde de l'hôpital, où j'ai assuré des fonctions d'encadrement pendant très longtemps, avant d'arriver en 2007, je suis plutôt en fin de carrière, au sein des EHPAD, je dirais par choix complet, parce que la dimension humaine des EHPAD me convenait tout à fait, la proximité des résidents correspondait à ce qui me plaisait.
Alors comment est travaillée cette relation humaine en EHPAD ? Comment est-ce que vous la prenez en compte, cette relation humaine ?
J'essaye avant tout déjà, lors de chaque admission, de connaître le résident, même si je ne connais pas le nom de tout le monde, d'essayer de connaître un peu le parcours et d'assurer une relation avec les médecins et les soignants de façon à ce que tout le monde puisse connaître, je dirais, la vie en institution et puis que les résidents puissent se connaître aussi entre eux.
Vous rencontrez les familles quand les résidents arrivent aussi
Alors, ce n'est pas moi personnellement qui le fais, mais j'ai mis en place une organisation qui permet aux résidents de rencontrer le médecin, le cadre, avant toute admission. Je dirais qu'avant toute admission, il y a un dossier administratif à constituer, bien sûr avec la partie connaissance de l'identité, des finances, mais aussi tout le parcours de la personne âgée, puisque je dirais quand elle arrive en institution, elle a eu tout un parcours, son parcours de vie qui doit être connu. Donc c'est un document qui est rédigé avec l'aide du médecin et du cadre.
D'accord.
Il existe sur les EHPAD ce qu'on appelle un conseil de vie sociale. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots et aussi de son fonctionnement ?
D'accord. Donc le conseil de vie sociale a été créé par la loi 2002. Donc il doit permettre une instance de consultation, hein, et non pas de décision, de consultation à la fois de nos familles, des résidents et de l'administration. C'est un moment privilégié de rencontre entre toutes les personnes.
C'est-à-dire qu'il est constitué des trois parties, l'institution, oui, les familles et les résidents.
Tout à fait.
Ça veut dire qu'avant 2002, il n'y avait pas ça.
Ce n'est pas obligatoire. Je ne dis pas que ça n'existait pas, mais ce n'est pas obligatoire.
Oui, il y a quand même
là, aujourd'hui, c'est obligatoire.
Ok. Et donc, qu'est-ce qui s'y passe dans ces conseils de vie sociale ?
Donc, avant tout, le conseil de vie sociale émet des avis sur les budgets, sur les travaux, les animations et toutes questions relatives à l'organisation même de l'EHPAD. Il émet aussi un avis sur le règlement de fonctionnement, sur le contrat de séjour qui nous lie à chacun de nos résidents.
Comment sont utilisées justement les ressources financières sur un EHPAD ?
Alors, il faut savoir qu'au sein de l'EHPAD, pratiquement 80% du budget est consacré au personnel. C'est la plus grosse partie. Ensuite, je dirais le reste...
Alors, sans vouloir aller peut-être trop loin, mais il est constitué de qui pour les gens qui ne savent pas du tout comment fonctionne une maison de retraite, un EHPAD ? Oui. Vous parlez de personnel, c'est quoi ? C'est du personnel de service, du personnel médical, du personnel d'animation ?
C'est
comment ça,
ça
se répartit, voilà.
Non, mais j'avais du coup, dire, oui, tous les métiers sont pratiquement représentés parce que c'est une ville qui doit fonctionner. Donc ça part effectivement du médecin traitant qui peut intervenir, du médecin coordonnateur qui coordonne l'ensemble, je dirais, de toutes les prescriptions. C'est le cadre qui organise, je dirais, la vie au quotidien des équipes. Ensuite, vous avez les infirmières, les aides-soignantes, le personnel de service, le personnel de cuisine, le personnel technique.
Le jardinier.
Le jardinier, qu'il ne faut pas oublier. Les animateurs. En fait, il y a énormément de métiers qui gravitent afin de permettre une vie en collectivité pour nos résidents.
J'ai une question. Oui. On parlait de cuisine. Est-ce que les résidents, des fois, ont l'occasion de faire de la cuisine s'ils le veulent ?
Alors, tout à fait. Et donc, il y a des ateliers. Et dans ce pavillon où nous sommes aujourd'hui, il y a une petite cuisine où les résidents peuvent réaliser des plats. Et je dirais les plats qu'ils souhaitent en plus. Hein. Je dirais que s'ils en ont envie, aucun problème.
Bien, je vais me retourner vers la table en face de nous, où sont les résidents, une quinzaine de résidents qui participent à ce projet radio. Est-ce que vous avez des questions, quelque chose à ajouter, une remarque une question.
Ah, monsieur. Oui,
allez-y, je vous en prie.
Oui.
Comment sont passés les marchés ? C'est ici ou c'est en plus grand ?
Ah, c'est une excellente question. En définitive, l'EHPAD de Louviers, comme celle d'Elbeuf, est rattachée au centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil. Et donc, on groupe nos achats donc sous forme d'appel d'offres et ensuite de marché, de façon à avoir les meilleurs tarifs et de bénéficier, je dirais, de toutes les conditions, y compris sanitaires, nécessaires. Donc, ce sont des achats groupés.
Oui, parce qu'on... Je trouve qu'on sort souvent un peu les mêmes produits. Comme par exemple, on n'a pas eu beaucoup de... On n'a pas eu de fraises, une fois, ou des cerises, on n'en a pas eu.
Ce sont des aliments effectivement un peu compliqués.
Bah oui.
Les fraises, il faut les consommer aussitôt livrées. C'est un petit peu compliqué. Mais cette année, je crois qu'en plus, les fruits n'ont pas été tellement présents. Par contre, vous avez dû bénéficier, je pense, de fruits tels que les pêches, les abricots, le raisin, de façon assez conséquente, il me semble.
Oui, mais souvent, c'était pas tellement mûr. Hein.
J'ai envie de dire, c'est comme chez soi, malheureusement.
Ah non, bah oui.
Moi-même, j'achète à titre privé des fruits et des légumes. Des fois, on est un peu déçus.
Et avec les appels d'offres, est-ce que vous avez quand même la possibilité d'avoir accès à des producteurs locaux qui font du bio ou des choses comme ça ?
Alors effectivement, on peut tout à fait avoir accès aux fournisseurs bio. J'ai envie de dire, aujourd'hui, notre choix ne se porte pas forcément vers ça, puisque ce sont des coûts supplémentaires. Et
ça viendra au fur et à mesure, peut-être.
Ça viendra si les prix du bio descendent un peu. Ouais. Néanmoins, on essaye de, malgré tout, mettre en place des achats un peu raisonnés. Hein. On ne va pas acheter n'importe quoi à n'importe quel prix. Il y a des cahiers des charges extrêmement précis qui permettent quand même une certaine qualité de prestation et de produits.
Eh bien, Madame Tuvache, merci d'être passée par nos micros pour nous en apprendre un petit peu plus sur le fonctionnement de ces EHPAD. Merci à vous. Merci. Nous, on repart en musique, et j'ai même envie de dire, en musique faite sur place.
Petit cordonnier qui voulait aller danser avait fabriqué une paire de souliers. Une belle est entrée qui voulait l'acheter. Le cordonnier lui a déclaré: ils seront à vous sans qu'il vous coûte un sou, mais il vous faudra danser avec moi. Petit cordonnier, t'es bête, bête, mais qu'as-tu donc dans la tête, tête? Crois-tu que mon cœur s'achète, chète, avec une paire de souliers? Mais la belle accepta, elle emmena sous son bras les petits souliers pour aller danser. Le cordonnier, tout réjoui, a mis ses plus beaux amis, ses beaux bonnets, pour aller danser. Mais quand il a voulu la faire danser, elle a refusé, lui a rionné. Petit cordonnier, t'es bête, bête, mais qu'as-tu d'eau dans la tête, tête? Crois-tu que mon cœur s'achète, tête, avec une paire de souliers? Mais la belle avait-elle fait seulement trois pas que les petits souliers furent ensorcelés. Elle se mit à tourner comme une toupie déréglée, et les musiciens n'y comprenaient rien. Elle tourna, tourna jusqu'au petit matin, et puis essoufflée, se fit à pleurer. Petit cordonnier, arrête, arrête, je me sens perdre la tête, tête. Tu ne dois pas être bête, bête, pour m'avoir ensorcelé. Petit cordonnier, arrête, arrête, que ta volonté soit faite, faite. Toute ma vie, le cœur en fête, dans tes bras je veux danser. Gentil petit cordonnier.
Bravo.
Votre premier disque, vous vous en souvenez, monsieur Leclerc?
Mon quoi?
Premier disque.
Mon premier disque? Non, c'est des chansons que j'ai. J'ai pas vraiment eu de disque. Hein.
Non?
Non.
Vous les avez apprises comment, toutes vos chansons?
Comment?
Comment vous les avez apprises, toutes ces chansons?
Ben, on les a. Par la radio. Ah. Oui, c'était. Radiola.
Radiola.
C'était une marque allemande. Ça devait être en 1936. C'est vieux parce que je suis vieux.
Ça se voit pas.
Je suis vieux parce que je suis vieux.
Je suis un ex-jeune, quoi.
Voilà. Oh, j'ai fait les disques, tiens. C'était Philips, normalement. Ouais. Ça a été Polygram. Voilà, je m'en rappelle plus.
C'est tellement changé après.
Oh! En dernier lieu, ça change tous les 6 mois, ça change. Fin de fabrication sur l'habillage.
C'est ça, la rosace centrale.
Non, habillage la rosace, c'était pas l'habillage. Ah oui. C'était pressé avec le disque. C'était pressé avec le disque. Non, c'était mettre les disques en pochette. Mettre les machines en route. Oh, ben oui, il y avait des belles pochettes, il y avait Johnny Hallyday, il y avait Brassens, il y avait. Faut voir la quantité de disques qu'on a mis en pochette à la mort de Brassens. Hein. D'abord, Brassens, c'était le Caïn de l'usine. Hein. Brassens, Johnny Hallyday, puis d'autres, mais enfin, Brassens, c'était le portige de l'usine. Mais... des millions de disques qu'on a sortis pour Brassens. Il est venu à l'usine Brassens.
Vous avez eu l'occasion de parler avec lui ou...
Oh, bonjour, bonjour. Hein. Ouais. Parce que vous savez, on était quand même 800. Hein. C'était la plus forte usine avec Vonder. Vonder était fort aussi, ouais. Mais on avait tout. Tout. Imprimerie, fabrication de pochettes, tout. L'enregistrement était fait des fois la nuit à Paris, à Antony. Ça arrivait le lendemain matin, vous avez, dans la journée, vous êtes sur toute l'usine qui était sur Brassens. Je dis Brassens parce que c'est le plus grand. Le lendemain matin, l'usine était... Toutes les machines étaient sur Brassens. Aussi Johnny Hallyday, hein.
Vous les écoutiez en avant-première ou pas, les disques,
oui,
du coup
ça. Oui, c'était écouté là-bas à l'usine. Puis ça ramenait à la louise, c'était écouté, puis oh là là là.
Voilà, toujours extrait des échanges que nous avons eus sur les deux semaines préparatoires de cette émission avec les résidents de l'EHPAD de Louviers et d'Elbeuf. Donc nous poursuivons et nous recevons maintenant leurs animatrices, deux animatrices de ces EHPAD. Pour l'EHPAD de Louviers, nous recevons Laetitia. Bonjour Laetitia.
Bonjour.
Et pour l'EHPAD d'Elbeuf, nous recevons Valérie. Bonjour Valérie.
Bonjour.
La première question, c'était de savoir un petit peu qu'est-ce qui a motivé votre choix de travailler en EHPAD. Vous êtes animatrice et pourquoi en EHPAD, j'ai envie de dire. J'imagine, comme pour les autres intervenants que nous avons eu au micro, que ce n'est pas par hasard.
Alors pour moi, c'est une reconversion professionnelle. Et pourquoi la personne âgée ? Parce que... effectivement, j'ai toujours eu un lien assez proche avec les personnes âgées, si ce n'est avec mes grands-parents. D'être proche des personnes âgées et ils m'apportent beaucoup, quoi. C'est des bibles à eux tout seuls.
Oui, il y a cette notion d'échange, très clairement, et puis d'intergénération, ouais. J'imagine.
Je pense qu'on leur apporte beaucoup, mais ils nous apportent deux fois plus.
Laetitia, quelque chose à ajouter ?
En fait, j'ai commencé l'animation auprès des enfants. Et lors d'une formation, j'ai découvert les personnes âgées. Et ben, j'y suis restée parce que voilà, ce que j'aime, c'est la force qu'ils ont de par leur passé et la fragilité en même temps qui est liée à l'âge. Il y a un décalage comme ça qui est intéressant.
Il y a longtemps, Laetitia, que tu fais ça ?
Ça fait 15 ans que je suis sur les pattes de Louviers.
Ah ouais. Et toi, Valérie ?
Ça va faire 9 ans.
Et vous avez suivi après des formations spécialisées pour ça ?
Alors, moi, j'ai suivi une formation animation classique, BPGEPS.
Oui.
Et suivi d'un DEFA qui n'existe plus désormais, c'est remplacé par un DEGEPS. Voilà, diplôme d'État.
Des termes de plus en plus barbares.
Voilà, absolument.
C'est ça dont personne ne connaît l'acronyme. Hein. Valérie elle-même, qui a suivi cette formation, n'a aucune idée de l'acronyme.
Le DEFA, si, diplôme d'État en fonction d'animation, voilà.
Pour connaître un peu le domaine de l'animation, dans les centres de loisirs, par exemple, ou les centres de vacances, on parle de projets pédagogiques. Est-ce que vous avez ce genre de projet dans les EHPAD ?
Ce terme n'est pas
utilisé.
C'est plutôt un projet d'animation qui s'inclut dans le projet de vie de la personne. Et le projet de vie s'inclut dans le projet d'établissement.
Concrètement, ça se traduit par quoi comme animation, tout simplement, auprès du public des résidents ? À quoi ressemblent un petit peu vos animations durant l'année qu'on a un peu une idée.
Il y a les ateliers hebdomadaires qui reviennent.
Alors quel type d'atelier
atelier mémoire, travaux manuels, jeux de lettres, jeux de société, gym douce.
Voilà, il y a toutes les activités en interne qui sont voilà toutes les ateliers de jeux de mémoire, des ateliers pour voilà pas rester coincé comme la gym permet de rester en activité. Les ateliers des mains créatives, par exemple, nous on les appelait comme ça sur Elbeuf, qui sont des activités manuelles où les dames peuvent soit tricoter ou faire quelques bricolages.
Les hommes aussi.
Les hommes aussi, oui. On a moins de tricoteurs.
Oui.
Les perles. Voilà. Et puis peinture. Ces petites choses après sont mises en vente lors d'un petit marché de Noël. Mais il y a également les activités externes avec les sorties.
les sorties, soit un musée, soit dans des écoles, cinéma. Soit cinéma. On essaye de faire en sorte de garder un lien avec
l'extérieur, avec la réalité.
Avec tout ce qui peut se passer, ouais. Voilà, en dehors de la maison de retraite, parce qu'effectivement, il ne faut surtout pas qu'on garde les maisons de retraite en huis clos. Donc, garder un lien maximum avec l'extérieur, en participant un maximum aux événements de la commune. Ou bien, si on ne peut pas faire venir l'extérieur, faire venir des intervenants au sein même des structures, comme des intervenants musicaux.
Alors, c'est justement, on aborde la deuxième notion que je souhaitais aborder avec vous, c'est cette notion de projet. Vous avez travaillé régulièrement en projet sur la durée. L'année dernière, vous avez travaillé avec François, justement, autour de la création d'un CD dont nous avons entendu un extrait en début d'émission. On travaille cette année sur un projet radio. Cette notion de travailler en projet, ça vous permet de travailler quoi avec les résidents? Ou qu'est-ce que ça permet de travailler comme ça sur du projet, au-delà des ateliers hebdomadaires dont vous venez de nous parler?
C'est notre vision de la culture pour nos résidents, c'est un accès à la culture. Ils découvrent certaines choses. Il y a des résidents qui n'avaient jamais chanté, même là, la radio, qui n'ont jamais abordé jusque-là la radio.
C'est une façon aussi de leur faire découvrir autre chose que les activités en interne. Et
c'est une mise en valeur, en plus, vraiment, des résidents.
Ouais. Le but étant vraiment de les valoriser un maximum à travers divers projets culturels.
Eh bien, merci à vous, Valérie et Laetitia, d'être passées par nos micros. De toute façon, vous serez amenées à prendre de nouveau le micro, notamment sur la période de projet qui nous attend. Je pense que vous êtes loin d'avoir tout dit. On voit que certaines prennent un réel plaisir à cet exercice-là, n'est-ce pas, Laetitia ?
Oui, merci.
Et nous nous arrangerons pour que ça devienne quasiment, je sais pas, naturel, comme faire du vélo, de prendre le micro.
Merci, Zizou.
Ce sera le défi.
Vous allez faire un tour de vélo, alors.
Très bien. Bah, merci à vous en tout cas, Laetitia, Valérie. Nous repartons en musique.
Alors bien entendu, il ne faut pas me demander comment je suis arrivé. Hein. Ni la date, rien du tout. C'est le néant, le puits sans fond. Quoi.
Tu t'en souviens pas?
Ah, pas du tout. J'habitais rue Raymond Poincaré à Petit-Quevilly. Mais j'ai quitté cette adresse-là, je sais pas quoi. Mais cela dit, ça m'empêche pas de dormir. Hein, de manger, tout ça, ça va. Tout se passe très bien. Non, mais c'est vrai que...
Donc, il y a un trou dans ta vie.
À un certain moment, oui.
À quel âge?
Je ne sais pas. J'habitais rue Raymond Poincaré, j'étais marié. Ma femme, elle avait déjà une fille, on a eu un garçon. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas du tout. C'est le néant, quoi. Je ne sais plus du tout.
Et tu te souviens de ta date de naissance?
Ah oui, quand même, oui. J'y étais. J'y étais.
Alors, si je te souhaite bon anniversaire.
Aujourd'hui, ben oui.
Alors, on va chanter bon anniversaire.
Ah ben moi, j'étais discret.
C'est une chanson pour Guy. T'as quel âge aujourd'hui?
Ah oui, c'est vrai, pour un coup de vieux. Attends, on est en combien déjà? 2000, combien déjà? Je sais même plus. Moi.
On est en 2014.
Ça me fait 65 ans.
Oh, t'es jeune.
Ben alors, j'ai toujours dit.
Bon anniversaire, nos voeux les plus sincères de ces quelques fleurs. Vous apporte le bonheur, que l'année entière vous soit douce et légère, et que l'an fini nous soyons tous réunis pour chanter en chœur bon anniversaire.
Non, parce qu'avant, je faisais de la photographie. Et puis, mais quand j'ai à faire de la photo, je prends les photos, les développer et tout ça. Hein. Sur papier, noir et blanc, couleur, diapo, tout ça. Quoi. Mais c'était pas suffisamment vivant, quoi. Et puis, à cette époque-là, avec madame et les enfants, pendant les vacances, je faisais un département côtier par an. Et je filmais, parce que les photos c'est bien, mais je préférais le film. Donc, tous mes pourboires que je faisais à France Télécom, parce que je travaillais à France Télécom, je les mettais de côté, j'ai acheté une caméra sonore, et donc j'ai fait des films comme ça. Et j'avais acheté une marque, alors la marque, je ne sais même pas ce que c'était comme marque, c'était une Super 8. Mais j'avais acheté ce modèle-là au départ, je m'étais renseigné chez un photographe. Mais uniquement pour avoir les prix, voir le matériel, mais je n'avais pas l'intention d'acheter tout de suite. Et un photographe qui a pris ses désirs pour des réalités, un jour j'ai reçu un courrier, comme quoi il fallait que je passe à son magasin pour venir chercher mon matériel. Alors j'y étais quand même, j'ai dit moi j'ai rien commandé. Ah mais il m'a dit tout le matériel est là. Caméra, sacoche, micro, tout. Alors j'ai dit bon, il a peut-être été un peu loin quand même, quoi. Alors j'ai dit, il veut me voir, mais je vais l'avoir en tournant aussi. J'ai dit, moi, je veux bien vous prendre tout le matériel qui est là. Il était sympa. J'ai dit, mais on va revoir les prix. Et les échéances. Toi, ça va marcher à ma façon. Enfin, je ne lui ai pas dit ça. Mais je lui ai dit, là, on va revoir les échéances et puis tout ça. Et puis, je faisais même des montages comment sonores, mais je faisais une prise de son directe avec ma caméra et je faisais une prise de son avec un magnétophone. Ce qui me permettait parfois de modifier un peu le son. Et la marque, c'était Shinon.
Et voilà, encore un extrait des moments que nous avons passés en préparation de ces émissions. Nous poursuivons cette émission, toujours à l'EHPAD de Louviers, en public, avec une douzaine de résidents en bout de table, juste en face de nous. Et nous recevons maintenant Denis Lucas, coordonnateur du dispositif Culture Santé à l'Agence régionale de la santé. Bonjour.
Bonjour.
Et Caroline Quessandier, chargée de projets culturels au CHU de Rouen. Bonjour.
Bonjour.
Pour y voir un petit peu plus clair, qu'est-ce que ce dispositif Culture Santé, Denis Lucas ?
Alors c'est un dispositif qui est créé maintenant depuis presque 10 ans en Haute-Normandie et qui vise à développer des projets culturels sur différents types de territoires. Donc en fait, il y a plusieurs dispositifs. Il y a un dispositif culturel hôpital, donc plutôt sur le champ du sanitaire, dans les unités de pédiatrie, soins palliatifs, enfin, etc. Un dispositif culture et personnes âgées, qui concerne effectivement l'EHPAD de Louviers, donc là où on retrouve comme partenaire la DRAC, ministère de la Culture, et le département de l'Eure. Et un autre dispositif qui s'appelle culture handicap, et là, ça concerne plus les enfants qui sont en instituts médico-éducatifs. L'idée centrale, en fait, c'est de permettre aux gens qui sont dans ce type d'institution de profiter d'un projet culturel, d'être soit initié à une pratique artistique, soit rencontrer des artistes ou des œuvres. En tous les cas, c'est l'idée de ne pas réduire la personne à son grand âge, mais la considérer toujours dans sa complexité humaine et lui permettre effectivement, d'être dans une approche sensible de l'art, en faisant en sorte que l'art arrive jusque dans ces institutions, mais aussi permettre à ces anciens de sortir pour fréquenter les structures culturelles du territoire.
Alors, nous y reviendrons dans un petit instant, bien entendu. Vous nous avez dit des choses sur lesquelles nous pourrons nous empêcher de revenir. Je vais du coup m'adresser à Karine Quessandier. Caroline, du coup, vous travaillez, vous êtes chargée de projets culturels au CHU de Rouen. Concrètement, comment ça se met en place ? J'imagine que vous travaillez également avec le dispositif Culture Santé.
Alors, concrètement, ça peut prendre différentes formes. Donc, effectivement, quand vous venez de le dire, moi, je travaille plutôt au CHU Hôpitaux de Rouen. Pour cet établissement, il y a 3 sites qui sont dédiés à l'accueil des personnes âgées. Et donc, notre projet, notre ambition est effectivement inviter les artistes à venir à la rencontre des résidents pour contribuer au projet de vie. Avec cette problématique, effectivement, de pouvoir rester ouvert toujours sur la ville, sur ce qui s'y passe, pouvoir effectivement sortir de l'institution, et pouvoir aussi trouver des espaces d'expression de sa créativité, notamment. Pour nous, au CHU, ça prend différentes formes. Il peut y avoir des projets inter-établissements. On travaille beaucoup avec les structures culturelles et artistiques de l'agglomération. On essaie de travailler aussi dans des logiques intersites. L'idée, c'est vraiment de favoriser les circulations, les échanges. Et donc, à ce titre, on est en train d'élaborer un projet de pôle où il y a effectivement trois sites concernés autour de différents axes, à la fois le spectacle vivant, on a différentes compagnies qui viennent en résidence au sein de nos EHPAD, et puis aussi plusieurs projets autour du musée. Cette idée de pouvoir aller découvrir de belles œuvres dans les musées. Pour la plupart, c'est la première fois. De se dire aussi qu'il n'y a pas d'âge pour les premières fois et de découvertes artistiques. Et d'offrir cette opportunité et de pouvoir donner la possibilité de s'exprimer ensemble.
Le travail sur l'accès à la culture, est-ce qu'il s'appréhende différemment avec les anciens, et notamment à travers les structures EHPAD ?
Il s'appréhende... moi, j'ai tendance à dire que c'est le contexte qui change. C'est-à-dire, il y a forcément des différences entre un hôpital, une maison de retraite, une école, un centre de détention, un centre social. Mais en tous les cas, sur le projet artistique, il est toujours avec ce même niveau d'exigence. C'est-à-dire, on fait en sorte de convoquer, je dirais, sur ce type de projet, des artistes professionnels, avant tout, qui sont très au clair par rapport à leur démarche au sein de ces institutions de soins, mais qui ont aussi, dans leur pratique artistique, une véritable exigence. Et ça, c'est une des conditions, je dirais, essentielles pour mener à bien ce programme. On n'est pas du tout, on ne fait pas du tout appel à des bénévoles ou à des artistes qui s'autoproclament artistes. C'est la raison pour laquelle on s'appuie beaucoup sur l'expertise de la DRAC, Direction régionale des affaires culturelles, et également des directions des affaires culturelles des départements, pour vraiment positionner des artistes qui ont un tropisme particulier par rapport à ce type de territoire. Alors, après, sur la mise en place des projets, bien sûr qu'on prend en compte le contexte. Hein, et le contexte, c'est la complexité parfois de l'organisation dans les unités de soins. On prend en compte aussi... l'âge des résidents, c'est-à-dire qu'on essaie d'adapter véritablement la proposition artistique pour qu'elle puisse leur convenir. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de partir de ces personnes. Je vais pas employer des grands mots, mais en tous les cas, pour moi, mon point de vue, c'est qu'on n'est pas franchement dans des logiques de démocratisation culturelle, mais plus dans des logiques de démocratie culturelle. C'est l'idée de, au lieu de parachuter quelque chose d'une culture officielle, quasi obligatoire, c'est plus partir de la sensibilité des personnes qu'on rencontre. Et là, j'ai un petit peu échangé avec les gens, et c'est vrai que cette idée des chansons de Barbara, partir de cette sensibilité-là pour les amener peut-être vers autre chose, de les ouvrir à d'autres sensibilités. Mais je pense que ce qui est important, effectivement, c'est de partir des personnes, de la rencontre humaine, que l'artiste puisse être en porosité avec tout ce qui se vit dans une maison de retraite médicalisée et de s'adapter pour proposer quelque chose d'assez juste. Je crois que c'est...
Est-ce qu'il y a un lien, du coup, entre l'accès à la culture et la santé à proprement parler ? Parce que c'est l'Agence régionale de la santé qui est dans un dispositif de culture et santé. C'est le CHU de Rouen qui travaille sur du projet culturel. Est-ce qu'il y a un lien entre la santé et l'accès à la culture ?
Alors c'est un dispositif qui a été créé en 99 au niveau national entre le ministère de la Culture et le ministère de la Santé. Effectivement, alors pourquoi à cette époque-là ? C'est parce qu'il y a eu un vrai souci dans ces années 2001-2002 de réfléchir effectivement à l'humanisation de l'hôpital. Faire en sorte que les patients ne soient pas réduits à leur maladie, mais qu'ils puissent être considérés comme des êtres citoyens, même en situation d'hospitalisation. C'est l'idée de leur donner, en quelque sorte, la parole. Alors, c'est arrivé après les années SIDA, où effectivement, les patients, les gens touchés, demandaient à être impliqués dans le processus de soins. Ils étaient devenus assez acteurs du processus de soins, de guérison. Et du coup, ça s'est resté dans les esprits. Et c'est vrai que maintenant, à l'hôpital, on ne considère pas uniquement les gens comme des patients, mais plus comme des personnes hospitalisées, pas uniquement comme des résidents, mais des gens qui se retrouvent là au bout d'une vie. Voilà, il y a cette notion de citoyenneté qui est extrêmement importante. Et pour revenir rapidement sur la question de la santé, je vois vers quoi vous voulez m'orienter, sur la question de l'art-thérapie, etc. Nous, on n'est pas du tout dans cette problématique-là. Chacun est dans son rôle. Les artistes sont convoqués avant tout pour apporter, pour travailler sur l'imaginaire, sur l'ouverture d'esprit, sur un rapport à soi, un rapport au monde. C'est essentiel, c'est sans doute le rôle de l'artiste. Et on estime parfois qu'il y a des prolongements dans le processus thérapeutique. en termes de bien-être. Hein. Et c'est vrai qu'il y a eu des gériatres qui se sont intéressés effectivement à la présence d'artistes dans des maisons de retraite, et on mesure à quel point la présence de l'art fait que les anciens se sentent mieux, sont plus paisibles, se sentent reconsidérés, resocialisés. Enfin voilà, donc c'est un principe actif. Hein. Je crois que c'est un nom que vous aimez beaucoup. Et moi, je considère que l'art a vocation à être un principe actif, et notamment dans ces maisons de santé.
Sur, vous parliez de culture apportée, et notamment en maisons de retraite, en EHPAD. Il y a un autre élément, c'est qu'en fait, quand on travaille avec des personnes âgées, ils ont leur propre bagage, la culture d'une vie, et ce qui est loin d'être rien. Est-ce que c'est pris en compte dans le travail que vous mettez en place, aussi bien vous, Caroline, à travers les projets culturels au CHU, que vous, Denis Ducas, par rapport à l'orientation des projets dans le cadre du dispositif Culture Santé. Est-ce que voilà, ce bagage culturel assez important chez les personnes âgées est pris en compte, et comment il est réutilisé, réexploité ?
Alors, comme le disait Denis, c'est vrai qu'il ne serait pas question d'arriver avec une proposition en disant « ça c'est bien, et c'est forcément bien ». Le but, c'est effectivement d'aller à la rencontre des populations d'un territoire, j'ai envie de dire, résident de maison de retraite, voilà, c'est une manière de qualifier, et de partir effectivement d'une rencontre entre un univers artistique, l'univers de chacun, des individus, et de leur histoire, de leur goût, de leur pratique, et de pouvoir confronter cette histoire personnelle avec un univers artistique. Donc, bien souvent, il y a beaucoup de projets qui sont autour de la mémoire, mémoire des populations de ces territoires. Pour tout ce qui est l'agglomération rouennaise, c'est beaucoup, mais c'est aussi, ça vient jusqu'ici, mais tout ce qui est la mémoire textile, qui est quelque chose de très très important. On sait aussi que la chanson, c'est quelque chose qui permet à chacun de pouvoir vivre des moments forts ensemble. Voilà, donc cette culture existante vient à la rencontre d'un univers artistique pour produire autre chose, quelque chose de moins connu peut-être aussi, d'ouvrir les univers.
Et ce qui est important, effectivement, en partant de la mémoire des personnes âgées, c'est aussi d'être dans la transmission. D'où l'envie, en tous les cas, dans ce programme, d'encourager les projets intergénérationnels. C'est-à-dire entre effectivement les écoles de proximité, les collèges de proximité, les maisons de retraite, pour que les anciens puissent transmettre un savoir-faire, une mémoire, une histoire, et qu'elle soit, cette mémoire puisse être transcendée par une pratique artistique et partagée. Donc c'est ce type d'axe que l'on essaie de développer dans le cadre du dispositif culture et personnes âgées.
Eh bien, merci à vous, Denis Ducas, de l'Agence régionale de la santé, d'être passé par nos micros. Merci également à vous, Caroline Quessandier, chargée de projets culturels au CHU de Rouen. L'émission touche à sa fin. Nous aurons eu l'occasion dans cette émission d'aborder pas mal de thèmes autour des maisons de retraite qu'on appelle EHPAD. Nous aurons l'occasion de revenir avec des émissions réalisées du coup par les résidents de ces EHPAD. Très bonne question, voilà, on a une question. Rapprochons le micro, elle est sur le générique, on va le faire, hein, c'est pas bien grave. Vous disiez ?
Que signifie ce nom EHPAD ?
EHPAD, établissement d'hébergement, je l'ai noté, attendez, je vais retrouver ça tout de suite parce qu'on va essayer de ne pas se tromper. Hein. Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Voilà ce que signifie l'acronyme EHPAD. Je souhaitais remercier les résidents qui ont participé à ce projet, qui ont réalisé le questionnaire avec nous, qui ont échangé sur divers thèmes, dont on a extrait quelques habillages pour cette émission de radio. On n'a pas tout utilisé, rassurez-vous, vous les entendrez sur les prochaines émissions. Et donc je voulais remercier Daniel Tailleur, Guy Lehoux, Jacques Béranger, Charline Lefort, Odette Lehoux, Jean-François Leclerc, Nelly Breton, Gérard Lesage, Hélène Libercier, Daniel Braun, je crois, si j'écorche pas un nom, voilà, Daniel Braun, Yvonne Primoul, François Conan et Jean-Claude Nullet. Cette émission a été également préparée avec l'équipe d'animatrices, à savoir Laetitia, Valérie, Alexia et Coralie. Elle était co-animée avec l'ami François. Et nous avions à la technique Monsieur Pignon.